Donc on conclut cette rencontre de pareil sur le cœur de Marie et le cœur de Jésus, mais surtout sur la contemplation du cœur de Marie. Et je vais vous faire donner quelques enseignements ou quelques rappels, après avoir des enseignements plus théologiques, de voir aussi l'œuvre de Marie, avec comment le cœur de Marie est saisi de compassion et rejoint les foules à différentes occasions, liées à l'actualité ou liées à différents points d'attention que je voulais noter. Mais avant cela, j'aimerais, comme on fait tout le temps à cette dernière séance, prendre vos questions qui ont pu jaillir, sachant que vous avez devant vous celui qui n'a pas fait les enseignements, avec le Père Carse, heureusement, donc c'est lui qui prendra les questions théologiques, et moi je prendrai les questions pratiques. Donc on termine, voilà, n'hésitez pas à formuler vos questions, j'en ai déjà deux de formuler ici, que je vais dire à voix haute, pour que le Père Carse puisse commencer à y réfléchir. Les deux cœurs de Jésus et de Marie sont unis au point de ne faire qu'un. Peut-on parler de Marie co-rédemptrice ou, selon Saint Jean Bosco, de Marie auxiliatrice? Deuxième question, peut-on dire que Parel Monial est la cité du cœur de Jésus et de Marie, des deux cœurs de Jésus et de Marie, ou une autre forme? Si oui, verra-t-on un jour exprimer un tableau des deux cœurs, car il n'y en a pas à Parel? Est-ce que vous d'autres, vous avez des questions? N'hésitez pas à les poser. On les prendra à la fin. Oui. Alors la question va être facile si elle est formulée de la manière « on n'en parle pas » apparaît, ça serait une réponse simple. Autre question? Une question, vous dites, mince, si je repars avec ça, ça va m'embêter, ça va m'empêcher de cheminer. Donc ça, même si elle n'a pas forcément de lien direct avec les enseignements, si ça peut, si vous en avez une maintenant, voilà. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Donc vous aurez bien d'autres occasions de poser vos questions. En tout cas, n'hésitez pas à les poser pour avancer, c'est un point important. Très bien, on prend ces questions, le Père Carse surtout les prend, parce qu'il... Et c'est un sujet qui est très important, mais je voudrais avant cela, cette fois on va faire un sens inverse, vous parler un peu, justement, peut-être un peu plus de l'ordre de la mystique, du cœur de Marie, en tout cas de revenir sur plusieurs apparitions, ou plusieurs grâces reçues par l'intercession de la Vierge Marie, pour nous encourager, après ces enseignements plus théologiques, à vivre cette vie avec Marie et de voir aussi comment le cœur de Marie est saisi de compassion devant les foules dans différentes situations. Alors, le premier texte que je voudrais citer, puisque nous sommes le 8 décembre, et à Lyon, c'est la fête des Lumières, et donc c'est intéressant de se rappeler peut-être pourquoi il y a cette fête des Lumières à Lyon. Vous savez pourquoi il y a la fête des Lumières à Lyon? C'est pas lié au mystère lumineux de Jean-Paul II, non. Non, non, en fait, c'est la ville de Lyon. La Vierge Marie a protégé Lyon, la ville de Lyon, au Moyen-Âge, contre la peste. Je vous lis ce petit texte. La ville de Lyon vénère la Vierge Marie depuis le Moyen-Âge et s'est mise sous sa protection en 1643, donc c'était avant même les apparitions de Jésus à Marguerite Marie. Année où le sud de la France était touché par la peste, les échevins de Lyon, le prévôt des marchands et les notables firent alors vœu de rendre hommage chaque année à la Vierge si l'épidémie de peste cessait. Comme l'épidémie cessa, le peuple tint sa promesse et rendit hommage à la Vierge chaque année. En fait, au point de départ, la vénération de la Vierge avait lieu le 8 septembre. Au départ, c'était le 8 septembre, le jour de la consécration de la ville à la Vierge, le jour de la fête de la naissance de Marie, pour lui offrir cierges et écus d'or, c'est le vœu des échevins. Et puis après, en 1852, eh bien, le 8 décembre est devenu la fête officielle. On est passé du 8 septembre au 8 décembre parce qu'on a voulu inaugurer la statue de la Vierge, la Sainte Vierge qui est en haut à côté de Fourvière. Vous voyez, il y a le clocher à côté de Fourvière. Donc, la statue de la Vierge posée sur le clocher à côté de la chapelle de Fourvière, elle devait être inaugurée au départ le 8 septembre, mais à cause des intempéries, eh bien, on a reporté cette date. Et puis, arrivé au 8 décembre, on s'est dit, on va faire ça le 8 décembre. Et puis, il y a eu encore du mauvais temps. Et les gens ont dit, non, non, beau temps, mauvais temps, c'est pas grave, on va installer cette statue de la Vierge cette année. Et donc, le 8 décembre, ils ont installé solennellement cette statue de la Vierge qui trône au-dessus de Lyon. Et donc, depuis, eh bien, c'est le 8 décembre que cette inauguration, cette fête, cette solennité se déploie. Et donc, pas à pas, eh bien, on va garder cette fête du 8 décembre pour vivre ces démarches. Et la fête des Lumières va s'étendre ensuite dans tout Lyon, va continuer à se déployer. Donc, fête des Lumières. Et alors, du coup, à travers ce point-là, ce premier point, c'est, vous voyez, cette intercession de la Vierge Marie, aussi pour les choses réelles de notre vie quotidienne, de la peste notamment. Il y a plusieurs fois où Marie accorde une grâce de libération, ou pour la peste notamment. On se rappelle aussi, alors c'est différent, mais la consécration de la ville de Marseille au cœur de Jésus, elle est liée aussi au même contexte. C'est dans un contexte d'épidémie qu'on va demander à l'évêque de consacrer toute la ville de Marseille. Et c'est dans ce contexte-là que Marseille va être aussi libérée alors que l'épidémie se répandait. Deuxième référence, vous l'avez évoquée hier pendant le chapelet, dans la marche à Romet plus largement, mais j'aimerais revenir quand même à un point, parce que c'est quand même le lieu du cœur immaculé de Marie, c'est les apparitions à Fatima, à Notre-Dame de Fatima, dont à Paray le Monial, nous avons une statue pour le coup, à l'entrée de la chapelle d'adoration, qui nous a été offerte par le sanctuaire de Fatima, de la même manière que le Sacré-Cœur, si vous allez à Fatima. Eh bien, au cœur de la place du parvis de Fatima, eh bien, il y a une statue du Sacré-Cœur. Alors, voilà, le cœur de Jésus et le cœur de Marie sont unis, et les sanctuaires aussi sont unis. Et j'aimerais vous rappeler cette question sur le cœur de Marie, dans le très concret de la vie de Jacinta, de François et de Lucie. C'est l'apparition du 13 juin 1917. Après avoir récité le chapelet avec Hyacinthe et François et d'autres personnes qui se trouvaient là, 50 ou 60 personnes, nous avons vu de nouveau le reflet de la lumière qui s'approchait et que nous appelions l'éclair, puis ensuite Notre-Dame sur le chêne vert, exactement comme au mois de mai. « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je. « Je veux que vous veniez ici, » donc c'est Lucie qui parle, « Je veux que vous veniez ici le 13 du mois prochain, que vous disiez le chapelet tous les jours et que vous appreniez à lire. » Ensuite, je dirai ce que je veux. C'est intéressant cette phrase. Je veux que vous appreniez à lire. François, il faut que tu te mettes au travail, il faut que tu te mettes à étudier pour lire, parce que je veux ensuite que tu puisses écrire. Donc, il faut que tu lises pour pouvoir écrire, parce que je veux que tu transmettes ce que je vais dire. Vous voyez, c'est intéressant. La Vierge Marie, elle nous demande aussi des fois des efforts humains, tout simples. Eh bien, j'aimerais que tu te mettes à faire la cuisine maintenant, parce que je vois que tu cuisines des bons petits plats pour honorer mon cœur immaculé. Ah bon ? Mais je ne comprends pas le lien direct. Ah ben, tu verras, après, ça va t'inspirer. Vous voyez, qu'est-ce que Marie peut nous demander aussi ? Lucie dit qu'elle demandait la guérison d'un malade. S'il se convertit, dit la Vierge Marie, il guérira dans l'année. Je voudrais vous demander de nous emmener au ciel, dit Lucie. Oui, Hyacinthe et François, je les emmènerai bientôt, mais toi, tu resteras ici encore quelque temps. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et aimer. Il veut établir la dévotion de mon cœur immaculé. À celui qui pratiquera cette dévotion, je promets le salut. Les âmes qui la pratiqueront seront aimées de Dieu et comme des fleurs placées par moi pour orner son trône. Alors, comme ces fleurs placées par moi pour orner son trône, ça peut vous rappeler une parole de la Vierge Marie à Paray le Monial, quand elle dit que les sœurs de la Visitation sont comme une couronne. La couronne que Marie offre, eh bien, chaque fleur de cette couronne, c'est une sœur de la Visitation, c'est une âme. Eh bien, nous sommes une. Voilà, Marie est fière de porter cette couronne qui sont ses âmes, qui sont ceux qui chérissent la Vierge Marie. Donc Marie vient d'apprendre à Jacinta et François qu'ils vont bientôt aller au ciel, que Lucie doit rester pour la mission. Quelle serait votre réaction, vous ? On pourrait peut-être dire Jacinta et François étaient tristes parce qu'ils vont aller au ciel. Nous, on est un peu comme ça, hein. J'ai pas envie d'y aller, et tout ça. Ben là, c'est le contraire, c'est Lucie qui est triste. C'est celle qui reste. Je vais rester ici toute seule, dit-elle. Demandai-je avec chagrin. Est-ce qu'on a le désir du ciel? Ça ne veut pas dire qu'on s'y précipite, hein. L'heure viendra quand le Seigneur voudra. Mais quelle est notre idée du ciel? Est-ce que ça va être une fête encore plus grande que ce qu'on vit? Vous voyez, moi, je me dis que quand on voit la beauté de la création, combien plus le ciel va nous réjouir, quoi. Oui, alors ça ne veut pas dire qu'on s'y précipite avec des mesures, mais on vit parce que le Seigneur nous a donné une mission aussi, il attend de nous qu'on soit ici, à notre tâche, à notre travail, mais ce désir du ciel, il doit habiter notre cœur. Vous voyez, quand on va s'en approcher, à la fois on va être peut-être tout tremblant en se disant, mais Seigneur, je suis vraiment un pauvre type, une pauvre femme, j'ai vraiment besoin de ta miséricorde. Voilà, qui suis-je? Je suis tout penaud, je n'ai pas l'habit de noces. J'aime beaucoup cette parole que je rappelle souvent. La salle de tes noces, je la vois, ô mon Seigneur, et je n'ai pas l'habit nuptial pour y rentrer. Donne-moi ce manteau, Seigneur, parce que je n'ai pas, c'est une grande prière orthodoxe. Donne-moi ce manteau pour pouvoir rentrer dans la joie du ciel. Mais Seigneur, je vois la beauté du ciel, voilà, et je vois que tu veux me désirer. Donc, Lucie a dit, ben voilà, je vais rester toute seule. Et alors, la Vierge Marie lui répond, ben oui, débrouille-toi. Ben non, c'est pas ça qui lui dit la Vierge Marie. La Vierge Marie lui dit, non, ma fille, tu souffres beaucoup, ne te décourage pas, je ne t'abandonnerai jamais. Mon cœur immaculé sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Au moment où elle disait ces dernières paroles, elle ouvrit les mains et nous communiquait pour la deuxième fois le reflet de cette lumière immense qui émanait d'elle. Nous nous y voyons comme submergés en Dieu. Hyacinthe et François paraissaient être dans la partie de la lumière qui s'élevait vers le ciel et moi dans celle qui se répandait sur la terre. Devant la paume de la main droite de Notre-Dame se trouvait un cœur entouré d'épines qui paraissait s'y enfoncer. Nous avons compris que c'était le cœur immaculé de Marie, outragé par les péchés de l'humanité, qui demandait réparation. Dans cette apparition commence à se manifester la grande révélation de Fatima, le cœur immaculé de Marie qui se montre entouré d'épines, symbole des offenses qui l'outragent et de l'ingratitude des hommes et qui demande réparation. Donc le même thème qu'à Paray-le-Monial, hein, le thème de la réparation dans lequel les enfants vont s'investir et qui, à travers les siècles, va continuer de se déployer. Voilà donc ce cœur immaculé de Marie, duquel émane une lumière intense qui à la fois s'élève vers le ciel et à la fois couvre la terre. Vous voyez, c'est important. Et elle prend Hyacinthe et François et elle prend Lucie dans cette lumière sur la terre. Donc peut-être que c'est aussi un point d'attention pour nous. Dans notre mission, ce Seigneur vient de dire à Lucie qu'il la veut sur la terre, qu'il veut qu'elle aide à faire comprendre la beauté du cœur immaculé de Marie. Et eh bien, elle reçoit cette grâce de cette présence de Marie. Et Marie couvre la lumière de la terre. Et ça, c'est quand même un point d'espérance à avoir. Souvent, on ne voit que les ténèbres. Est-ce qu'on voit que la Vierge Marie essaie de couvrir de sa lumière et nous prend dans sa lumière pour couvrir la terre? Vous voyez quel regard et quelle espérance on a sur cette lumière-là. Alors, François, très impressionné par ce qu'il avait vu, demande à ses compagnes: pourquoi Notre-Dame avait-elle un cœur à la main qui répandait sur le monde cette grande lumière qui est Dieu? Tu étais avec Notre-Dame dans la lumière qui descendait sur la terre et Hyacinthe et moi dans la lumière qui montait vers le ciel. C'est que lui ai-je répondu, toi, Hyacinthe, vous irez bientôt au ciel, et que moi, je resterai avec le cœur immaculé de Marie encore un certain temps sur la terre. Voilà. Elle a compris le message, elle le retransmet tout de suite à son petit Francisco, son ami, mais d'entendre ça, voilà. En fait, moi, je resterai avec le cœur immaculé de Marie encore un certain temps sur la terre. Je me rappelle de ce témoignage d'une sœur consacrée qui disait que, quels que soient les lieux de mission où elle partait, elle avait toujours sur son dos, comme un escargot, eh bien, pas son sac, mais eh bien, d'être avec elle est avec la Vierge Marie. Elle dit, j'ai ma maison avec moi, et ma maison, c'est le cœur immaculé de Marie. Je reste dans la maison, je reste avec Marie, quels que soient les endroits où je vais. Voilà, donc, alors il y a d'autres, vous connaissez, hein, il y a d'autres lieux où le cœur immaculé de Marie va être exprimé à Fatima, puisque c'est le thème majeur. Mais je prie ce texte du 13 juin parce que c'est tout simple, ça rejoint la vie quotidienne de ses enfants. Et la Vierge Marie, elle veut rejoindre aussi chacun d'entre nous. Voilà, tout simplement, confions-nous au cœur de Marie. Je vous rappelle ces deux prières, hein. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Et cette autre prière que l'ange enseigne aux enfants, Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous réentendez ce qui se passe avec Faustine. Présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences pour lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Je reprends cette phrase-là parce qu'elle est très importante. Par les mérites infinis de son cœur sacré et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Vous voyez, c'est les mérites du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Et avec Marguerite Marie, c'est tout ce chemin de conversion, il est là-dessus aussi. Passer du sacrifice qui me plaît au sacrifice qui plaît à Dieu. Vous voyez, et Jésus va lui dire à un moment, j'aimerais que tu offres mon cœur. Je ne veux pas d'abord que tu offres tous tes sacrifices à toi. C'est moi que je veux que tu offres. Et là, on retrouve ça exactement avec Marie, avec la demande de l'ange, par les mérites du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Ce n'est pas nos mérites, nous, on se plonge dans le cœur de Jésus et du cœur immaculé de Marie, pour la conversion des pauvres pécheurs. C'est le Christ qui sauve. Voilà. Ça va? Je vous prends un troisième lieu, parce qu'on l'a célébré il y a très peu de temps, cette fête, cette mémoire, c'était vendredi dernier, et c'était une autre apparition qui a eu lieu, pas très loin de chez nous, qui est Notre-Dame au cœur d'or à Beaurain. Vous voyez, après Fatima, Marie va, juste avant, une dizaine d'années avant la Seconde Guerre mondiale, et la dévastation de la Belgique par Hitler, voyez, eh bien Marie apparaît plusieurs fois en Belgique pour soutenir, comme pour préparer aux épreuves qui viennent. On le retrouvera aussi à Kibeho, je terminerai par Kibeho, voilà, au Rwanda, 10 ans avant le génocide. Et là, 10 ans avant, on est en 1932, on est quelques années avant que... donc on est à quelques kilomètres de la frontière française. Et Marie, à la fin, montre son cœur comme un cœur d'or nimbé de lumière. Vous voyez, je ne vais pas déployer plus cette apparition, je pourrais vous citer quelques références. Donc c'est plusieurs enfants qui vont voir cette belle dame. Et donc c'est le 30 novembre, la Vierge Marie apparaît aux enfants au-dessus d'un pont. Ils la voient encore au même endroit, plusieurs jours plus tard. Et puis... Elle se montre à plusieurs endroits, notamment sous une branche de l'aubépine, près de la grille d'entrée du jardin. Et c'est là que Marie se manifestera une trentaine de fois, jusqu'au 3 janvier 1933. La belle dame est vêtue d'une longue robe blanche avec des légers reflets bleus. Sa tête est recouverte d'un long voile blanc qui tombe sur ses épaules. Autour sortent de fins rayons de lumière qui forment comme une couronne. Marie tient habituellement ses mains jointes et sourit. À partir du 29 décembre, les enfants aperçoivent entre ses bras ouverts son cœur tout illuminé, tel un cœur d'or nimbé de lumière. C'est de cette vision que viendra l'appellation de Notre-Dame de Beaurain, la Vierge au cœur d'or. Alors, les enfants vont poser la question, qu'est-ce que vous nous voulez? Ça, c'est simple, hein. Je ne sais pas si vous demandez ça à Marie de temps en temps. Marie, qu'est-ce que vous voulez de moi? Et... Marie parle pour la première fois et leur demande d'être bien sages. Soyez bien sages. Oui, nous le serons toujours, crient les enfants. Puis le soir, lors d'une nouvelle apparition, elle s'exprime de nouveau. Est-ce vrai que vous serez toujours bien sages? Marie aurait-elle des doutes? Oui, répond-il encore. Le 8 décembre, les enfants tombent en extase durant un quart d'heure. Le docteur passe une flamme sous la main de Gilberte, picote à l'aide d'un canif la main des deux Gilbertes. C'est pas très drôle, hein. Projette une lumière vive dans les yeux de Gilberte. Le docteur la pince vigoureusement à plusieurs reprises, met sa main devant ses yeux et tente de l'éblouir au moyen d'une lampe de poche. Les enfants n'ont aucune réaction. Ils ne ressentent rien et n'en gardent aucun souvenir. Elle était plus belle que jamais, diront-ils le 8 décembre. Une foule de curieux de plus en plus nombreuses entoure chaque jour les enfants. Le 17 décembre, Marie dit vouloir la construction d'une chapelle. Le 21, à la demande « Dites-nous qui vous êtes », Marie se nomme « Je suis la Vierge Immaculée ». Pourquoi venez-vous ici? Pour qu'on vienne ici en pèlerinage. Et à partir du 30 décembre, donc c'est vraiment à la fin, hein, vous voyez, c'est intéressant, il y a d'abord cette grâce du cœur à cœur avec Marie qui vive, où au fond c'est tout simple, est-ce que vous serez bien sage, je suis la Vierge Immaculée, elle est plus belle que jamais. Eh bien, à partir du 30, elle va commencer à donner son message. Priez, priez beaucoup. Hier, la semaine dernière, j'étais avec des Belges, ils m'ont dit, il faut prier. À Borin, il faut prier, c'est la prière. Le 1er janvier, insiste, priez toujours. Le 3, Marie confie un secret aux trois plus jeunes. Donc, ne me demandez pas les secrets, c'est pas pour nous. Il n'y a pas à s'inquiéter là-dessus. Et puis, elle fait cette promesse, je convertirai les pécheurs. Je suis la mère de Dieu, la reine des cieux. Puis elle dit adieu aux quatre plus jeunes, la plus âgée du groupe n'a encore rien vu. Elle reste à genoux devant l'aubépine lorsqu'une boule de feu apparaît. Une foule très nombreuse peut voir cette boule de feu brûler sans consommer l'arbuste. La Vierge apparaît alors à Fernande, seule, comme sortant de la boule de feu qui, elle, disparaît. Elle lui demande « Aimez-vous mon fils ?»« Oui, » répond Fernande. « M'aimez-vous ?»« Oui, alors sacrifiez-vous pour moi. Adieu. » Alors, donc un peu plus tard, il y aura quelques apparitions à Banneux, plutôt dans la province de Liège, toujours en Belgique francophone, qui seront reconnues après la Seconde Guerre. La Vierge Marie apparaît donc deux fois autour de janvier 33, et c'est exactement au moment où Hitler prend le pouvoir en Allemagne, 30 janvier 33. 7 ans plus tard, en mai 40, l'Allemagne parvient à envahir la France en prenant la route des Ardennes, comme en 14. Et cependant, contrairement au plan Schlieffen de 1905 dont il s'inspire, Hitler n'emprunte pas la route de Borin à Givet, où ont lieu les apparitions, mais il passe plus au sud. Plusieurs villages de la région, comme Varnant, ont été évités et remercient Notre-Dame de Borin pour la protection dont il pense avoir été l'objet. Ils construisent une chapelle à Varnant aussi. Alors, voilà, c'est cette apparition du cœur d'or. Et puis cette invitation à veiller, vous voyez, elle ne nous enlève pas toutes les épreuves qu'on a. Et Akibéo, c'est très fort aussi. Hein. Elle apparaît, elle nous prévient, elle nous invite à la conversion, à être bien sage, à prier toujours, à aimer son fils, et à nous sacrifier aussi dans l'humble quotidien. Alors, n'ayons pas peur de ce que ce mot veut dire. Hein. Voilà, comment nous rentrons sans cesse dans cette vie de conversion auquel le Christ nous appelle, l'exigence de la conversion. Pour pouvoir vivre aussi tous les éléments de notre vie quotidienne et vivre les épreuves aussi, voyez. Donc c'est pas toujours Marie n'est pas une baguette magique qui va dire hop j'enlève tout, tout va bien. Marie, et je pense qu'elle est plutôt là et elle-même n'a pas une vie où elle a été dispensée d'épreuves, voyez. Mais l'intercession de la Vierge Marie, c'est aussi pour nous aider à vivre cette vie chrétienne tout au long de notre vie, à supporter les épreuves. Comme on est le 8 décembre, donc vous voyez, le 8 décembre à Borin, il y a une chose, un événement, une apparition. Et alors, je vais venir maintenant au dernier point important. Nous sommes le 8 décembre, et le 8 décembre ont commencé les apparitions à l'île Bouchard, en Touraine. C'était en 1947, c'est une des anciennes, les plus récentes, avec Notre-Dame de Quibéo aussi. Donc, du 8 au 14 décembre, donc ça, du 8, c'est cette semaine, hein, fait mémoire de cela, 1947, quatre fillettes témoignent avoir vu la Vierge Marie dans l'église romane Saint-Gilles à l'île Bouchard. À 10 reprises, elle s'entretient avec elles. C'était que des filles, 4 filles. Elle leur demande de prier pour la France qui est au bord de la guerre civile. Et elle leur promet du bonheur dans les familles. Donc l'aînée, c'est l'aînée qui aura mission un peu de transmettre ce qui s'est passé, qu'elle s'appelle Jacqueline Aubry, elle est décédée il y a quelques années. Qui donne ce témoignage que vous pouvez retrouver encore. Hein, je pense que si vous tapez l'île Bouchard, apparition de l'île Bouchard, vous pourrez voir ce témoignage de Jacqueline, qui doit être en vidéo. Donc on est juste après l'après-guerre, et en fait, la France, elle n'est pas encore reconstruite, et il y a même moins à manger en 47 qu'en 45. À la campagne, ce n'est pas très grave, parce que les tickets de rationnement peuvent être suppléés par tous les arbres fruitiers, les clapiers ou autres. On était assez autosuffisant, mais pas dans les villes. Et dans les villes, début décembre, il y a des émeutes, notamment devant les boulangeries, et le climat social difficile est alourdi par le début de la guerre froide. Staline a décidé de prendre le pouvoir partout en Europe. En France, il va passer par le Parti communiste français et la CGT qui déclenchent une grève générale, qui devient une grève insurrectionnelle. On est au bord de la guerre civile. C'est marrant, comme c'est toujours autour du 8 décembre que on est en phase de grande révolte, comme si Marie est là pour intercéder le cœur immaculé de Marie, qu'on puisse continuer à la prier. Et là, voilà. Le 8 décembre 47, vers 8 ou 9 heures du matin, le père Finet entre dans la chambre de Marthe Robin et dit « La France est foutue ». Et Marthe répond « Non, père, la Sainte Vierge va apparaître et demander la prière des petits-enfants ». Et à l'île Bouchard, ce même jour, vers 13 heures, les fillettes contemplent une belle dame qui ne dit pas une parole. C'est une histoire compliquée, hein, parce que les enfants, ils vont sécher les cours. Ils vont comprendre que leur maîtresse leur dit, bah, allez-y alors, si vous avez une belle dame, qu'est-ce que vous faites ici? Alors du coup, ils disent, ah bon, elle nous autorise à quitter l'école en 47, vous imaginez? Et donc, ils vont partir pour aller voir dans l'église discrètement. La Vierge Marie va apparaître, cette belle dame, comme il l'appelle, et elle va demander aux enfants, aux petits-enfants, de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Donc c'est une des premières caractéristiques du message de l'île Bouchard, hein, de prier pour la France. Le mardi 9, elle dit, « Je vais vous dire un secret que vous pourrez redire dans 3 jours. Priez pour la France qui, ces jours-ci, est en grand danger. » Et le mercredi 10, je ne suis pas venu ici pour faire des miracles, mais pour vous demander de prier pour la France. Et le vendredi 12, donc 3 jours plus tard, je ne suis pas venu ici pour faire des miracles, mais pour que vous priez pour la France. Voilà, et si on relit l'histoire, le 9 décembre, le comité central de grève constitué par les fédérations CGT ordonne la reprise du travail. Le 12, la France est définitivement sauvée de la guerre civile et le travail a repris. Et le 12, eh bien, le mot Magnificat devient lisible sur la poitrine de la Vierge Marie. Et donc depuis, ben, on prie particulièrement pour la France, à l'église Saint-Gilles, notamment chaque second samedi de chaque mois, la messe célébrée pour la France. Nous, on célèbre le premier vendredi du mois. Vous voyez, dans tous les différents sanctuaires, on associe cette prière pour la France. Deuxième caractéristique de l'île Bouchard, ça va être cette demande, cette parole de Marie qui dit « Je donnerai du bonheur dans les familles ». Vous voyez, avec cette exhortation apostolique du pape François, hein, la joie de l'amour, vous voyez, qui veut parler aussi du bonheur dans les familles, on retrouve ça, hein, cet appel à la joie de l'amour. Et on sait que pour les familles, c'est pas simple. Et donc, on peut se confier à Notre-Dame de la Prière, qui nous apprend à prier, c'est souvent sous ce vocable-là qu'on l'invoque, Notre-Dame de la Prière, apprenez-nous à prier. Et Marie donnera ses petits conseils, hein. Chantez le Je vous salue, ce cantique que j'aime bien. Dites à la foule de s'approcher pour réciter une dizaine de chapelets. Marie bénit l'assistance par un signe de croix, et elle invite à embrasser la croix de notre chapelet. Priez beaucoup pour les pécheurs. Marie apprend aux petites filles l'invocation Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Dites à la foule de chanter le Magnificat. Voilà, donc pas à pas, au fur et à mesure de la semaine, ils vont apprendre à dire leur prière du chapelet, passer d'une dizaine, puis plus, de plus en plus. Voilà, priez pour la France, priez pour la famille, apprends-nous à prier. Voilà 3 thèmes qui restent d'actualité. Et donc cette attention de Marie aussi pour nos pays. Là, c'est la France. À Kibeho, ce sera pour le Rwanda, 10 ans avant le génocide. Voilà, des paroles qui reviennent assez fortement. Mais donc cette attention de Marie un peu pour notre vie quotidienne. Vous voyez, donc c'est tout cela en complément de ce que vous avez entendu dans les différents enseignements pour nous introduire à une vie toute simple avec la Vierge Marie. Voilà, que nous puissions peut-être comme Lucie, que voulez-vous que je fasse? Vous voyez, parler à Marie simplement. Dites-vous, ah bon, je vais rester toute seule là toute ma vie encore. Vous voyez, vous allez m'attendre encore longtemps avant que j'aille au ciel. Vous voyez, on a le droit de dire ça de temps en temps. Ben, j'aimerais bien aller au ciel. Bon, ben voilà. Et de lui dire aussi, oui, Marie, j'aime ton fils et je t'aime. Voilà, comme elle peut le dire à Borin. Voilà quelques éléments. En conclusion, si après les questions, je referai un petit point sur Kibéo. Prenons ces questions.
imaginer au point de n'en faire qu'un. Peut-on parler de Marie co-rédemptrice ou selon Don Bosco de Marie auxiliatrice? L'Église n'a jamais encore entériné ce titre de co-rédemptrice pour qu'il n'y ait pas de confusion théologique. Si on dit co-rédemptrice, ce qui ne serait pas faux, mais sans explication et sans commentaire, dans l'imagination populaire, il y aurait presque comme un pied d'égalité entre Marie et Jésus, ce qui n'est pas possible. Le Concile Vatican II insiste bien sur l'unique médiation de l'unique rédempteur qui est Jésus. Cela dit, nous le savons, nous l'avons bien médité hier encore devant le tableau de Maurice Denis, Marie est vraiment celle qui a rendu la rédemption possible par son assentiment, par sa totale disponibilité. Alors, dans mon opinion, mais qui rejoint, je pense, celle de l'Église, pour le moment, il vaut mieux éviter le titre de co-rédemptrice. En revanche, le nom de Marie auxiliatrice, oui, tout à fait. Ça va dans le sens de ce que nous avons dit hier. Le nouvel Adam s'est cherché une aide qui lui soit parfaitement assortie, pour reprendre les paroles qu'on trouve dans le livre de la Genèse à propos du premier couple. Et un autre titre, alors qui est tout à fait accepté, Marie, et c'est peut-être encore plus juste théologiquement, Marie médiatrice de toute grâce. Alors là, oui, c'est elle qui rend possible l'accueil de tout ce que le Seigneur veut nous donner et qui est souvent entravé par nos propres péchés, nos résistances, nos refus, avec elle qui n'est que oui, que amen. Elle est vraiment la médiatrice de toute grâce. Donc voilà pour cette première question.
Je me permets un petit complément pour nous-mêmes. En fait, derrière Marie médiatrice de toute grâce, c'est aussi la question de la place de l'Église, puisque derrière Marie, c'est mère de l'Église. Vous voyez, et comment au fond le Seigneur veut passer par l'Église? Comment il passe par l'Église pour donner ses sacrements? Comment, vous voyez, on peut dire, on n'est pas la Vierge Marie, loin de là, on est des pauvres hommes, et pourtant l'Église, elle est une sainte catholique apostolique. Dieu veut passer par l'Église pour donner ses grâces. Et de la même manière qu'on pourrait dire Marie est auxiliatrice, dans les apparitions qu'on vient de lire, on entend comment Marie dit les enfants priez pour la France. C'est-à-dire qu'on est invité à participer à cette œuvre de salut du Seigneur. Vous voyez, et c'est non pas que le Seigneur ne peut pas le faire tout seul, mais c'est, ça, c'est aussi une grâce qu'il nous donne de rentrer dans ce chemin, de participer avec lui, d'entrer dans cette intercession, cette prière, aussi bien avec les enfants de Fatima que ceux de l'île Bouchard. Ou, voilà. Vous voyez, donc cette place que nous avons, dans laquelle nous sommes associés. Vous voyez, dans cette parole de Marthe Robin, Marie va demander la prière aux enfants. On a l'impression que c'est plus la prière des enfants encore qui va toucher le cœur de Dieu, ou qui va apaiser même... dans une grâce un peu spéciale, ce qui se passe dans le cœur des hommes, vous voyez, comme si ça s'apaise par cette prière des enfants. C'est mystérieux, mais donc vous êtes invités à vous mettre au travail aussi, chers amis. Alors pour ça, vous pouvez demander le secours de la Vierge Marie. On n'est pas au même niveau, bien sûr, mais je pense que ça nous invite à prendre conscience aussi de la place que nous avons dans ce mystère du salut. Est-ce que le Seigneur ne veut pas passer par moi pour rejoindre un voisin, une voisine, donner une parole de consolation? J'attends des fois que ça descende du ciel, et le Seigneur dit oui, mais moi je veux aussi que ça passe par toi.
Maintenant, la deuxième question, peut-on dire que Paris le Monial est la cité du cœur de Jésus et de Marie, des deux cœurs de Jésus et de Marie, ou une autre forme? Alors là, je pense que non, parce que les révélations privées ou ce que la tradition nous transmet sont progressives. À Paris le Monial, certes, Marie est présente dans les événements. Il y a cette guérison de Marguerite Marie. Il y a le fait que Jésus révèle que Marie et Marguerite Marie sont profondément unies aussi à son cœur. Il y a la grande vision du 2 juillet. Mais Paris le Monial n'est pas le lieu de la révélation du cœur immaculé de Marie. Ce n'est pas encore le moment. C'est vraiment le centre, là, c'est le cœur de Jésus. Donc, c'est vraiment la cité du cœur de Jésus. On ne peut pas dire cité du cœur de Jésus et de Marie. De même que bien plus tard, on pourra vraiment dire que Fatima est la cité du cœur immaculé de Marie. Là, oui, les temps sont mûrs. Donc voilà simplement pour une question de titre ici. Même si la Mère de Dieu est très présente dans les événements de Paris, comme elle est présente dans tout grand moment de l'histoire de l'Église, le centre de la révélation reste ici vraiment le cœur de Jésus, le sacré cœur de Jésus.
Si oui, verra-t-on un jour exprimer un tableau des deux cœurs, car il n'y en a pas à Paris. Eh ben moi, j'aimerais surtout vous exhorter, n'hésitez pas à nous aider à améliorer la beauté du site. Et donc, si vous voulez nous donner des financements pour pouvoir améliorer, restaurer déjà des beaux bâtiments que nous avons, le dôme, le diorama ou d'autres lieux pour que le cœur de Jésus soit honoré, ben, n'hésitons pas.
Oui, mais je vais répondre quand même. Il y a un tableau des deux cœurs à Paris, mais je reconnais qu'il faut avoir de très bons yeux et savoir où le trouver. C'est un vrai jeu de piste. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut me dire où est-ce qu'on voit les deux cœurs unis sur un tableau à Paris?
Tu sais?
Non.
En fait, il est pas. Oui, c'est même pas un tableau vraiment, c'est une fresque.
C'est une peinture murale, oui.
Une peinture murale, il n'y en a pas beaucoup des peintures murales.
Donc, on ne va pas prendre trop de temps. Non, dans la peinture murale, le Père Matteo, qui est à genoux et qui regarde vers l'assemblée, et bien sûr.
Dans la chapelle des apparitions.
Dans la chapelle des apparitions, sur son vêtement, il y a très clairement les deux, ce qu'on appelle même les sacrés cœurs de Jésus et de Marie. Le cœur de Jésus est reconnaissable à cause de la croix qui est plantée dans le cœur, et à côté, il y a le cœur de Marie profondément uni. Donc, il y a quand même une représentation des deux cœurs à Paris. Mais c'est vrai qu'on peut imaginer. Mais là encore, il faut une grande prudence théologique dans la manière de le faire aussi. Alors, il est très bien représenté au dos de la médaille miraculeuse, bien sûr, avec le glaive, l'unique glaive de douleur qui unit les deux cœurs.
En tout cas, c'est intéressant d'avoir cette lecture de l'histoire, vous voyez. Parémonial n'est pas... c'est pas hors de parémonial, point de salut, le Seigneur passe. Et il y a cette pédagogie. Comme la réparation, on en parlait tout à l'heure, notamment avec Fatima, vous voyez, il y a des compléments. Le Seigneur nous aide à comprendre plus profondément ce qu'il y a, cette spiritualité, vous voyez.
Est-ce que tu veux éventuellement... À la fin, le cœur de Marie triomphera. Cœur de Jésus, cœur de Marie. Oui, alors... quelle était la question, mais peut-être tu t'en souviens.
Oui. À la fin, le cœur de Jésus triomphe. Le cœur de Marie triomphera, ça je pense c'est une parole de Fatima. Hein.
Oui, c'est ça.
À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Et on peut se dire, mais en fond, si c'est Jésus qui sauve, est-ce que c'est vraiment le cœur de Marie qui doit triompher, ou pourquoi Jésus disparaît à la place du cœur de Marie? Vous voyez?
Alors là, il faut se reporter à l'Apocalypse. Marie elle-même est sauvée par l'acte rédempteur du Christ. Mais par son assentiment, alors là qu'elle est parfaitement auxiliatrice et médiatrice de toute grâce, elle rend le triomphe du Christ possible par son assentiment, et de ce fait, cet assentiment devient aussi triomphe. C'est Jésus qui écrase la tête du serpent, et en même temps c'est la femme dans l'Apocalypse qui est vainqueur du serpent. Et par la grâce de Jésus, donc le cœur de Marie triomphera ne signifie pas que ça occulte le triomphe du cœur de Jésus. Il triomphera parce qu'elle est pleinement, elle est, comme on pourrait dire, le tabernacle de celle qui accueille pleinement ce triomphe du Christ, dans toutes ses dimensions, dans toutes ses dimensions et ses implications. Alors, je ne sais pas si on peut répondre à autre chose là-dessus.
Est-ce qu'on pourrait dire que la volonté de Marie va s'accomplir, qui est que la volonté que le Seigneur règne, que le Christ règne, le désir de Marie, la volonté profonde de Marie, ce qui habite le cœur de Marie, c'est profondément le règne de son Fils. Vous voyez, et au pied de la croix, moi je trouve que c'est un moment qu'on peut méditer. Marie est Stabat Mater, elle est femme debout au pied de la croix. Je trouve que Marie n'est pas celle qui dit « Oh Jésus, mon pauvre Jésus, qu'est-ce que tu souffres ?» Oui, elle a le cœur transpercé, et en même temps, elle désire ardemment que ce salut soit opéré. Vous voyez, elle est cette nouvelle Ève qui veut engendrer un peuple nouveau. Et donc, d'une certaine manière, c'est celle qui va permettre au Christ d'aller jusqu'au bout dans le don de lui-même, qui lui dit, mon fils, va jusqu'au bout, offre ta vie pour les pécheurs, parce que nous voulons, toi et moi, le salut de tous les hommes. Et donc, c'est ce salut qui s'opère à la croix, c'est le désir de Marie, même si c'est un cœur transpercé, parce que quelle douleur elle vit d'offrir son fils. Vous voyez, il y a un double tiraillement en Marie. Voilà, c'est le salut des hommes qu'elle veut, et en même temps, elle ne veut pas la souffrance de son fils. Et le chemin, c'est pourtant celui-là. Je ne sais pas si ça vous éclaire plus ce que je raconte. Hein.
Très chaste Saint Joseph, on n'en parle pas à Parémonial. Alors là, je vais faire un petit peu d'humour, on en parle quand même au moins chaque dimanche dans les litanies devant le Saint-Sacrement. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Donc déjà, à Parémonial, ça résonne au moins une fois par semaine.
Voire deux le vendredi.
Voilà, le vendredi, on ne fait pas les litanies.
Ah bon?
Le premier vendredi du mois, oui, ah. Uniquement le premier vendredi du mois. Donc voilà, mais là j'ai envie de dire c'est pareil. Il y a une économie, une croissance dans différentes formes de révélation qui sont pédagogiques. On n'en parle pas à Paris-le-Monial, on en parlera à Cotignac, puis on en parlera au Canada en temps voulu. Saint-Joseph sera honoré, mais là il n'y a pas effectivement à Paris-le-Monial une place particulière, même dans les révélations, autant que je sache, ni chez Claude la Colombière, ni chez Marguerite Marie. Qui met un accent particulier sur Saint-Joseph. Donc voilà. Marie est absente à l'agonie, elle qui est toujours avec lui, alors ce n'est d'abord pas toujours exact, elle n'est pas présente à la transfiguration, elle n'est pas présente peut-être au baptême, forcément. Il n'est pas sûr, même si on peut se poser la question, qu'elle était présente au moment de l'institution de l'Eucharistie, et même si la tradition la présente sur les tableaux, qui est probable, mais pas sûr non plus, était-elle présente à l'ascension ? Parce qu'au moment de l'ascension, c'était un geste éminemment sacerdotal. Il était là avec ses disciples, il les bénissait et il est enlevé au ciel. Donc Marie n'est nullement présente partout avec lui. Elle est présente de son cœur immaculé, unie au cœur de Jésus. Elle est toujours spirituellement présente avec lui. Alors il y a une tradition, alors ce n'est qu'une tradition, hein, ce n'est pas du tout un dogme, qui dit que c'est par la prière de Marie qui pressentait ce que son fils était en train de vivre à Gethsémani, c'est par sa prière qu'un ange est intervenu pour réconforter Jésus. Enfin bon, ça c'est un petit peu, c'est conjecturel. Donc elle n'est pas présente à l'agonie, ce qui ne l'empêche pas d'être profondément unie à tout les étapes de l'acte rédempteur du Christ, d'un bout à l'autre. Ne serait-ce que parce qu'elle garde toutes ces choses dans son cœur, elle a forcément gardé toutes les annonces de la Passion, et elle sait ce qui se passe intuitivement à ce moment-là, même si elle n'y est pas présente. À l'agonie, il n'y a vraiment que les disciples, à une certaine distance, et les trois apôtres privilégiés, tout proches, qui n'ont pas été capables de veiller. Alors, viens Esprit Saint, pourquoi lui dire viens alors qu'il est déjà là ? Oui, il est déjà là, mais il n'est jamais là de façon statique. Il est toujours en mouvement, et surtout il nous dépasse, il nous déborde de partout. On pourra toujours dire qu'on ne le reçoit jamais, il ne sera jamais autant là, enfin en nous, on ne le reçoit jamais autant que lui veut se donner. Une image pour cela, c'est la merveilleuse vision d'Ézéchiel. Ce filet d'eau qui coule du sanctuaire, qui grandit, jusqu'à nous dépasser complètement. On perd pied, on se laisse mener par le courant, c'est Ézéchiel chapitre 47, versets 1 à 12. Et donc, notre liberté est constamment interpellée pour lui demander de continuer à agir encore avec beaucoup plus de force, car le don qu'il veut faire de lui-même est infini, alors que nous sommes des créatures finies. Nous pouvons sans cesse, c'est notre vie chrétienne, demander au Seigneur d'élargir, d'accroître notre capacité d'accueillir. Mais jamais ici-bas nous ne l'accueillerons autant que lui veut se donner. C'est pour ça que nous disons viens. Voilà. Vous pourriez me dire, un petit enfant, quand il appelle sa maman ou son papa, ou quand il se sent un tout petit peu abandonné ou un petit peu en détresse ou qu'il a faim, pourquoi il les appelle puisqu'ils sont là ? Ils sont là, mais il les appelle quand même. Sa présence, leur présence englobe et dépasse infiniment ce qu'on peut en percevoir.
Tu veux dire quelque chose là-dessus aussi ?
Non, je trouve que c'est... Voilà, l'Esprit Saint est là, mais est-ce que nous sommes là ?
Voilà, c'est ça en fait.
Donc peut-être que quand je dis « Viens Esprit Saint », je dis au Seigneur « Je suis là ». La porte est ouverte, comme on chante une fois. La porte est ouverte au grand vent. Bah, le grand vent est à l'extérieur, maintenant est-ce que j'ai ouvert ma fenêtre ou est-ce que... Bon bah j'ouvre la fenêtre en disant viens, je sais que tu es là, mais moi je suis pas toujours là. Donc viens. Et c'est beau de redire notre volonté, notre oui. Dire oui Seigneur, aujourd'hui je te redis oui, guide ma vie, oui Esprit Saint, aujourd'hui je veux t'accueillir. Vous voyez, un époux qui ne dit jamais oui à sa femme, à un moment elle dit mais tu es sûr que tu m'aimes vraiment, mais je te l'ai déjà dit. Pas besoin de le redire. Bon, bah alors, je suis quand même, ça me fait plaisir de l'entendre. Bah, de redire oui au Seigneur. Dire Seigneur, oui, je te redis oui. Je dis redire oui à l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est content. Dire ah oui, en fait, t'es encore motivé. Alors je viens et je déploie.
Et il y a pour ça, ce qui exprime merveilleusement ça, c'est la parole de saint Augustin dans ses confessions. Quand il se remémore son époque d'endurcissement avant sa conversion, il dit « Tu étais en moi, Seigneur, et tu m'appelais. C'est moi qui étais en dehors de moi. C'est pas que tu n'étais pas en moi, tu étais en moi, tu m'appelais, tu as vaincu ma surdité. Mais c'est moi qui étais en dehors et qui ne t'entendais pas. » Donc c'est ça. Et c'est si souvent le cas, l'Esprit Saint est en nous, mais on ne l'entend pas. Donc on prie pour avoir la capacité, et chaque fois qu'on demande une nouvelle effusion de l'Esprit Saint, c'est ça. Pour vaincre un peu plus notre surdité, disons naturelle, due aux conséquences du péché.
Est-ce que vous avez d'autres questions qui ont jailli? Pas d'autres questions? Alors je vais vous terminer par le message de Kibeo, qui a eu lieu au Rwanda en 1981. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 30 ans, bientôt 40 ans. Vous savez que le génocide du Rwanda a eu lieu un peu plus d'une dizaine d'années plus tard, et donc 10 ans en amont, en 81, une jeune femme, à l'école, elle voit la Vierge Marie. Elle s'appelle Alphonsine Mumureke, au collège Kibeo. Et donc elle reçoit des apparitions, je vous donnerai après le message, et alors, je vous donne ce petit détail parce que c'est assez drôle, et donc les gens disent « on n'y croit pas ». Parce qu'en fait, on a l'impression que Alphonsine, c'est une hystérique ou une possédée. Donc, on aimerait, Seigneur, on aimerait que Marie apparaisse à d'autres enfants pour bien confirmer que ce qu'elle vit, c'est vrai. Donc, Alphonsine dit à la Vierge Marie, bah, écoute Marie, ce serait bien que tu apparaisses à d'autres, parce que si c'est que moi, ça ne marchera jamais, quoi. Et Marie va apparaître à 2 autres élèves, une qui s'appelle Nathalie Mukamazimpaka, qui a priori est une jeune femme... discrète, pieuse, studieuse, donc vraiment pas folle du tout, hein, donc bien en place. On dit ah bon, il apparaît à cette femme-là, cette jeune fille aussi dit cela. Et puis elle apparaît aussi à une autre femme qui s'appelle Marie-Claire Mukangango. Et Marie-Claire, en fait, c'est celle qui s'opposait à ce qui se passait pour Alphonsine. Donc Marie-Claire était contre les apparitions, elle disait non, c'est n'importe quoi ce qu'elle reçoit et tout ça, et paf, bah, c'est elle qui récupère les apparitions. Ah, ben en fait, c'est vrai. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, il va y avoir ces messages qui vont arriver. Donc c'est intéressant, enfin, c'est délicat, mais peut-être qu'il y a des fois où vous n'êtes pas compris, on ne vous comprend pas. Bah, dites à Marie, éclaire aussi les autres, parce que si ça passe que par moi, ça ne marchera pas. Donc, des fois, dans la vie charismatique, ça nous arrive. Le Seigneur met une parole dans notre cœur. Je me souviens des moments, j'étais sur. Il y avait les sessions à Paris-Monial, donc vous savez, il y a du monde. Et puis, on est un peu loin du micro. Et donc, on dit, bah, c'est bien, tu me mets une parole dans mon cœur, mais je n'arriverai jamais à attendre du Seigneur. Eh bien, va inspirer quelqu'un qui est plus près du micro pour donner cette parole. Et hop, ah bah dis donc, il dit la parole que j'avais dans le cœur. Vous voyez, bah, Seigneur, c'est l'Esprit Saint, il sait faire ces affaires-là. Alors, le message de Kibeo est très dur, hein, puisque les enfants voient aussi des grandes détresses. Et donc les enfants vont voir notamment ce qui va se passer pendant le génocide, en fait. Ils vont être tremblants et peureux à plein des reprises. Alors, l'appel de Kibeo n'est peut-être pas connu. Marie, on l'invoque là-bas sur la Vierge des 7 douleurs. Et elle nous propose de faire le chapelet des 7 douleurs. Mais le message, c'est un appel à se repentir. Vous voyez, quand nous entendons Marie qui nous dit « Repentez-vous, 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 convertissez-vous quand il est encore temps », souvent, ben, nous, aujourd'hui, on lit ça, on dit « Bon, oh là là, toujours ça s'appelle à la conversion ben, ». Sauf que quand on voit que le génocide de Kibeo, le génocide du Rwanda, 10 ans plus tard, voilà, comment est-ce qu'on est attentif aux appels du Seigneur ? Le monde se porte très mal, il va tomber dans un gouffre, c'est-à-dire être plongé dans des malheurs innombrables et incessants. Si vous ne vous repentez pas et ne convertissez pas vos cœurs, vous allez tomber dans un gouffre. Et ce gouffre, eh bien, c'était presque réel pour le peuple du Rwanda. La tristesse de la Vierge. La mère du Verbe est fort affligée à cause de l'incrédulité et de l'impénitence des hommes. Elle se plaint de notre mauvaise conduite, caractérisée par une dissolution des mœurs, une complaisance dans le mal, une désobéissance continuelle au commandement de Dieu. Une des paroles mystérieuses dites plus d'une fois par la Vierge à Alphonsine, avec la demande de la répéter aux hommes. La foi et l'incroyance viendront ensemble sans que l'on s'en aperçoive. Et effectivement, c'était une grande surprise, en fait, parce que même le peuple rwandais s'est dit « Mais comment on a pu en arriver là, si vite ?» Vous voyez, alors que c'était un peuple qui peut être marqué par la foi, qui vivait, vous voyez. Et ce qui s'est passé, hein, rien que entre voisins, l'horreur qui s'est passée entre voisins. La foi et la croyance viendront ensemble sans que l'on s'en aperçoive. Comment on demande cette grâce d'être enraciné, vous voyez. On peut se dire « Tiens, tout va bien », et puis en fond... cette perte de foi peut venir très vite, donc il nous faut rester vigilants. Pas dans une inquiétude, vous voyez, je t'ai touché tout à l'heure en vous le redisant, la Vierge Marie, elle sourit. À Borin, elle sourit. Est-ce qu'on sourit, nous aussi, de temps en temps, hein? La joie de l'Évangile, est-ce qu'on a des visages radieux? Ça ne veut pas dire que tout va bien. La Vierge Marie, elle sait très bien que tout ne va pas bien, et pourtant, elle a ce sourire. Les enfants sont touchés par ce sourire, en 47, alors qu'il y a une guerre civile. Oui, mais comment on se laisse habiter quand même, voilà. Non pas dans une tension, mais paisiblement et dans une prudence. La souffrance salvifique. Personne n'arrive au ciel sans souffrir, dit Marie. Là, ça peut vous inquiéter, mais ça peut aussi vous apaiser d'entendre ça. Quand vous vivez des souffrances, en fait, Seigneur, personne n'arrive au ciel sans souffrir. Que je ne me sois pas dans une grande surprise, dans un grand trouble, et pourquoi je souffre, et pourquoi ceci, cela. Voilà, on sait très bien que cette souffrance, elle fait partie de notre quotidien. L'enfant de Marie ne se sépare pas de la souffrance. Alors cette parole, on peut entendre de deux manières. On peut entendre soit en disant « Ouh là là, la souffrance », soit on entend cette, comme si la souffrance attirait l'enfant de Jésus. Enfin, l'enfant de Marie, Jésus. Vous voyez, Jésus est saisi par une âme qui souffre. Et vient, comme dit Dieu dans l'Exode, « J'ai vu la misère de mon peuple, je suis descendu ». Un sixième thème, prier sans cesse et sans hypocrisie, dit-elle. Les hommes ne prient pas, et même parmi ceux qui prient, beaucoup ne prient pas comme il faut. La Vierge demande aux voyants de prier beaucoup pour le monde, d'apprendre aux autres à prier et de prier à la place de ceux qui ne prient pas. La dévotion envers Marie se concrétise là-bas par une récitation régulière et sincère du chapelet, du rosaire. Puis après, il y aura cette proposition du chapelet des douleurs de la Vierge Marie. La voyante Marie-Claire Mukangango dit avoir reçu des révélations sur ce chapelet. La Vierge aime ce chapelet, connu autrefois. Celui-ci était tombé dans l'oubli. Notre-Dame de Kibéo désire qu'il soit remis en honneur et répandu dans l'Église, mais le chapelet des douleurs ne supplante point le Saint-Rosaire. La Vierge désire qu'on lui construise une chapelle en souvenir de son apparition à Kibéo. Et puis, dernier point, prier sans relâche pour l'Église, car de grandes tribulations l'attendent dans les temps qui viennent. Voilà, donc nous on est 30 ans, 40 ans après Kibéo. Effectivement, on voit ces grandes tribulations au cœur desquelles on est, qui nous invitent à cette prudence, cette vigilance, à prier, à se mettre dans la prière, tout simplement, concrètement. Ça ne doit pas nous inquiéter, ça doit nous aider à nous tenir fidèles dans ces épreuves. Et en relisant toutes ces grâces aussi que la Vierge Marie a données dans l'histoire, on voit aussi comment on peut traverser ces épreuves. Vous voyez, quand on est dedans, forcément on se dit « Oh là là, c'est dur !» Mais alors pour l'île Bouchard, ça a duré une semaine. C'est bien, au bout de 3 jours, les révoltes se sont apaisées. Réjouissons-nous. Bon, ben, pour d'autres, il a fallu attendre des années avant de pouvoir traverser. Mais aujourd'hui, quand vous voyez le peuple rwandais, il y a beaucoup de belles choses qui ont jailli de ces cendres, hein. Je me souviens il y a eu un incendie près de l'abbaye de Campéniac, et toute la forêt au-dessus était ravagée, il n'y avait plus rien et tout. Et puis quelques années plus tard, au milieu de tout cela, la vie a repris et a rejailli. Vous voyez, nous sommes peut-être là pour tenir ferme et tenir bon, et pour rentrer dans ce chemin. Alors, comme on évoque le chapelet de cette douleur, je terminerai par ce petit chapelet. C'est un chapelet qui médite à chaque fois une des douleurs de la Vierge Marie. Premier mystère douloureux de cette douleur de Marie, c'est le vieillard Siméon qui annonce à Marie que son fils sera en butte à la contradiction. Le deuxième mystère, c'est le massacre à Bethléem et la fuite en Égypte, la souffrance de l'exil. Troisième douleur, la disparition de Jésus à 12 ans. Quatrième douleur, Marie qui voit son fils chargé de la croix. Cinquième douleur, Marie debout au pied de la croix. Sixième douleur, Marie qui reçoit le corps inanimé de son fils. Et septième, Marie au tombeau de Jésus. Et donc, on invite à chaque mystère à dire un Notre Père, sept Je vous salue Marie, et après chaque Je vous salue Marie, de dire priez pour nous, Vierge des douleurs, que nous soyons dignes des promesses de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas un chapelet de dizaines, mais en même temps, il est bien dit, hein, le rosaire, ça ne supplante point le rosaire. Donc, tout ça, ce sont des dévotions supplémentaires qui nous aident à prier. Voilà, donc si ça peut vous aider, peut-être dans des moments où c'est plus difficile pour vous, bien faites ce chapelet des sept douleurs, vous le retrouverez sûrement facilement par les médias et par Internet maintenant, pour pouvoir vivre, passer aussi ces temps des épreuves. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Rodolphe ? On vous remercie du coup, on se réjouit de cette rencontre de Paray, hein, sur le cœur de Marie, dans ce temps du mois de l'Avent. Vous vous souvenez de cette prière que l'on vous propose aussi de Marguerite Marie, hein. Je vous adore, je vous aime, divin cœur de Jésus dans le cœur de Marie. C'est vraiment la période où on contemple justement Jésus dans le sein de sa mère, hein, qui se forme, qui est formé dans le sein de Marie. Voilà, et cette belle parole de Marguerite Marie, je vous adore, je vous aime, ô divin cœur de Jésus dans le cœur de Marie. Et puis après, elle dit, je vous conjure de vivre et de régner dans les cœurs. Je vous conjure de vivre et de régner dans les cœurs. Voilà, eh bien, nous pouvons demander cela aussi pour nous, mais d'entrer dans cette intercession-là. Voilà. Par votre pur amour, Seigneur, je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs. Voilà, eh bien, on vous souhaite un beau temps de l'Avent, un beau temps de Noël avec la Vierge Marie, et que cette amitié avec Marie, Papa, nous conduise à aimer Jésus de mieux en mieux. Merci à chacun d'entre vous. Bon retour chez vous. Pour ceux qui se posent la question, je le rappelle, ceux qui... pour le financement de cette retraite, eh bien, ceux qui suivent par Internet, eh bien, qu'ils n'hésitent pas à faire un don au sanctuaire, on sera ravis, ça nous aidera à continuer à travailler sur les médias pour pouvoir transmettre ces retraites. Et pour ceux qui sont ici, vous avez donc une urne qui est sous le porche, vous avez aussi, si vous le désirez, une urne plus au sec, ici, là, il y a dans le hall d'entrée. Voilà, surtout que votre main droite oublie ce que donne votre main gauche, pour qu'après votre main droite se dise « mais j'ai rien donné, moi, qu'est-ce qui se passe ?» Alors c'est vrai que vous avez été sollicité plusieurs fois au musée du Hiéron, dans les chapelles et tout ça. Alors je vous dis très simplement, hein, c'est vrai qu'on travaille avec beaucoup de personnes, ça, c'est pas toujours les mêmes frais effectivement que les frais des sanctuaires ici. Donc merci de votre générosité. Mais voilà, faut pas que vous vous inquiétez aussi, donnez souvent ce que votre cœur et ce que vous pouvez aussi. Voilà, soyez prudent aussi là-dedans. Pour revoir les vidéos, vous allez sur le site www.sacrecoeur-paray.org et vous allez sur événements. Il y a plusieurs onglets en haut et l'onglet c'est événements. Il y a événements. Vous trouverez les retraites, vous trouverez des enseignements des retraites précédentes et les retraites de celle-là. Sinon, vous allez peut-être vous allez sur l'onglet enseignement qui peut être aussi. Notre cher responsable de la communication a mis ça en œuvre. Donc, soit enseignement, soit événement. L'événement rappelle un peu les événements qu'on vient de vivre. Et enseignement, vous trouverez plein d'autres enseignements. Voilà. À bientôt peut-être. N'hésitez pas à revenir vous reposer sur le cœur de Jésus. Quand vous voulez, on sera ravis de vous accueillir. Et puis, bien sûr, aussi Radio Espérance, qui retransmet ses enseignements régulièrement sur leurs ondes et sur Internet. Bonne journée à tous. On va bénir vos objets, si vous avez acheté des objets, et on va dire l'Angélus. Ce serait quand même bien de finir par l'Angélus.